Cryptique. À quoi ça nous fait penser ? Des échanges et des nœuds entre cinéma, musique et littérature. Bonjour à toutes et à tous sur Jet FM, mais aussi sur cette toute première émission Triptyque que je suis super contente de présenter. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, ni pour les prochaines normalement, j'espère. Dans l'idée, c'est d'inviter des personnes avec moi. Je suis avec trois invités très sympathiques, Inès, Tristan et Aïssel, et moi, c'est Laura. Donc pour présenter un petit peu l'émission, c'est la première aujourd'hui, donc il faut bien un peu d'explication. Dans les grandes lignes, j'ai proposé un thème, donc je propose un thème pour l'émission. Aujourd'hui, le thème, ce sera l'ennui, et il y en aura d'autres, normalement une fois par mois, tous les mardis, enfin un mardi par soir à 18h, une fois par mois. L'idée, c'est que je présente le thème, qui est l'ennui, et ensuite, autour de ce thème, on discute de cinéma, de musique et de littérature, ou de littérature, peu importe ce que les gens rapportent. Et donc, on va commencer peut-être en musique. J'ai pensé à commencer avec Tristan. Bonjour, Tristan.
Bonjour.
Tu nous as trouvé une petite musique en lien avec l'ennui pour cette première.
Exact. Alors, c'est une musique qui s'appelle Soboard. Donc, j'ai bien travaillé. C'est-à-dire être ennuyeux en anglais. Et donc, c'est une chanson qui a été à la base créée par un dénommé Waves, qui a sorti son album en 2009. C'était son deuxième album qui s'appelle Waves avec 3 V. Waves, ça s'écrit avec 2 V si vous voulez chercher sur les internets. Qui était sorti donc sur Fat Possum Records. Et en gros, pour un peu, déterminer un peu le style musical de Waves, c'est un peu un mélange entre du punk à roulette genre Sum 41, Nirvana et Ty Segall, un peu le pape du revival garage punk. Il nous vient de San Diego, donc voilà, ce petit mec a très rapidement joué avec deux membres de Jerry Tarts, qui est également un peu le deuxième pape du garage punk revival des années 2000, qui est lui pour le coup mort prématurément à 30 ans, comme toutes les stars du rock'n'roll, enfin à 3 ans près. Et bref, là c'est pas Waves qu'on va écouter, c'est mon amie Annette Penny, qui a joué aussi dans un groupe mortel qui s'appelait Peninsula, et qui pendant le confinement devait bien s'ennuyer également, et nous a demandé un peu à la rescousse quels étaient les morceaux qu'on pouvait lui suggérer de reprendre. Et donc du coup, c'est un morceau qu'elle a repris à l'Omnicord, qui est devenu un peu son instrument de prédilection. L'Omnicord, c'est un instrument qui a dû être fabriqué dans les années 80 par Suzuki, qui font pas que des motos cross, qui font également des instruments de musique, comme Yamaha, qui fait pas uniquement des motos, ils font aussi des flûtes traversières. Et j'en passe. Du coup, l'Omnicord, c'est un instrument hybride qui est en gros à la fois un peu un instrument d'accompagnement vocal, on va dire, qui est inspiré de l'auto-harpe, qui est un instrument plutôt de qu'on retrouve dans la country. Pas mal, et donc du coup c'est un peu un... là il a été réinventé par les Japonais, donc il y a une petite boîte à rythme d'orgue, de la basse, et donc, du coup c'est un de ses premiers morceaux qu'elle nous a offert à l'Omnicord. Voilà.
Super. On peut peut-être écouter ça.
Like the dirt.
Annette Penny, So Bored, trop bien.
Voilà, qu'on peut retrouver sur son SoundCloud, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si elle est sur Spotify, vu que ce n'est pas sa chanson.
Oui, je crois qu'il était sur SoundCloud. Ouais. Il me semble que c'était une compile où elle avait fait plusieurs sons, ouais, c'est ça.
Donc, Lucie Annette Penny, qui nous vient de Nantes, on avait oublié de dire. Donc, bon, c'est le premier morceau qui m'est venu en tête parce qu'il s'appelle So Bored. Donc voilà, c'était plutôt littéral comme réponse. Mmh. J'ai essayé de lire un peu les paroles, les traductions, et j'avoue que j'ai rien pigé. Mais j'imagine que ça parle un peu de la détresse d'un post-ado ayant grandi trop vite, ou du moins refusant de grandir. Et pour finir, Annette Penny, je la considère un peu comme, je dirais, la déesse de la grunge en France, au oui. moins, quoi, tu vois, un truc comme ça. Ouais. C'est ma pote, mais j'avoue que je suis un peu fan hardcore.
On a la chance d'avoir une déesse du grunge à Nantes, complètement locale. Ouais.
Voilà. Alors, pour poursuivre...
Oui, est-ce que tu nous as trouvé un petit bouquin ou un petit film
J'ai une VHS là, on l'entend en ma possession, qui s'appelle Last Action Hero, qui est mon film d'action, mon film de mitraillette préféré, avec Arnold Schwarzenegger. C'est sorti en 1993. C'est un film de John McTiernan, petite star du grand écran. Il nous a sorti tout de même Predator ou Die Hard, avec un kids prénommé Austin O'Brien. Je pense que c'est un peu son seul film notable. J'ai vu tout à l'heure sur internet qu'il avait joué dans My Girl 2. J'étais pas au courant qu'il y en avait un deuxième, mais le premier m'a suffi tellement qu'il m'a fait chialer. Donc j'ai évité de regarder le deuxième. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce film que je vous ai sorti? Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas si connu, parce qu'il a fait un bide commercial assez monumental. Ouais. C'est une des paroles fétiches de Schwarzenegger dans le film. Je vous conseille de le mater en VF. C'était à l'époque où la VF, c'était vraiment mortel. C'est-à-dire que en anglais, en américain, il dit « big mistake », et quand il dit ça en français, ça donne « monumentale erreur ». Ça a quand même un peu plus de gueule. Donc, l'histoire du film... En gros, c'est un kids qui habite à New York, dans un New York hyper sombre, qui est vraiment pas cool. Il a pas de papa, sa maman il la voit pas souvent parce qu'elle bosse. Il manque moitié de se faire agresser par un mec qui veut lui voler sa téloche, mais qui se rend compte qu'elle est tellement petite qu'il pourra pas la revendre pour la refourguer contre du crack, quoi. Donc c'est un peu le délire. Et son seul pote à ce Danny Manigan, c'est un vieux pépé qui est projectionniste, qui a accès un peu à des films en avant-première, dont le nouveau Jack Slater, donc interprété par Schwarzenegger. Donc il y a vraiment Schwarzenegger dans le film et tout, voilà, c'est vraiment une espèce de métaverse, une grosse mise en abîme. Et il y a donc ce projectionniste qui lui fait tout un speech en fait avant de lui faire regarder ce film, et il lui découpe un espèce de ticket de coupon de cinéma qu'un certain magicien Houdini lui avait offert, mais qu'il avait jamais osé utiliser parce qu'il avait trop peur que ce soit du chiquet, que ce soit faux. Et donc, dès le début du film, il se retrouve projeté dans l'écran, littéralement, dans une grosse scène d'action avec du gros hard rock à base de AC/DC, Big Gun et compagnie. Et comment dire, c'est un film en fait qui est vraiment une espèce de satire du blockbuster de films d'action qui était vraiment en train de s'essouffler à ce moment-là. Schwarzenegger, il avait joué peu de temps avant dans un film qui s'appelle Commando. Avec Alicia Milano, que vous avez pu revoir plus tard dans Charmed, où en gros, pour essayer de faire le film le plus fat, il vantait le fait qu'il n'y avait jamais eu encore autant de morts à l'écran, enfin bref. Donc du coup, je pense que ce mec qui a fait Die Hard, Predator et compagnie ont un peu senti le truc se passer. Et donc du coup, c'est vraiment un espèce de film qui est entre un mi-chemin entre la satire et le blockbuster d'un film d'action survitaminé, où en fait, il y a à la fois de l'autodérision, mais en même temps, les scènes d'action, elles n'ont jamais été autant fat, quoi. Et tout le temps du film, en fait, le kid, il essaye de faire comprendre au personnage de Schwarzenegger que c'est juste un fucking personnage de fiction. Et donc du coup, il y a une scène assez mythique où il l'emmène dans un truc de location de vidéo. D'ailleurs, c'est comme ça que cette cassette a fini par être connue. C'était grâce au magasin de location de films. Et il va dans le truc et il demande à la fille qui est au comptoir les films de Schwarzenegger. La meuf, c'est limite, se dit pas à vos souhaits parce qu'elle comprend pas ce qu'il est en train de dire. Et il demande non, les films d'action. Et là, on tombe sur Stallone qui est genre à bord de la bécane de Terminator 2. T'es en mode, c'est quoi le délire et tout machin. Et bref, il finit par réussir à sortir de l'écran parce que forcément, il y a un méchant qui a chopé le ticket et qui se rend compte que quand il est à New York, dans le vrai New York, c'est les méchants qui gagnent, quoi. Donc là, ça vrille et c'est pas cool du tout. Et il y a même une scène mythique, bon, je vais pas vous spoiler le film, mais où il y a du coup le personnage Jack Slater qui se retrouve à la première du film et qui se met à foutre une grosse patate à lui-même, à Schwarzenegger, en disant qu'il a jamais pu le blairer. Et donc si je disais que alors Schwarzenegger, c'était donc à la fois mon film préf avec mon républicain préf, c'est que globalement pour un républicain je le trouve quand même pas mal. Il a fait Le Mariage pour tous bien avant notre Hollande national. Et en fait il y a sa femme, donc c'était une Kennedy, et à un moment donné aussi qui lui dit s'il te plaît arrête de faire la promotion de ta chaîne de burgers. Et enfin bref, il y a vraiment un truc en mode autorisation de ouf. Et si ça m'a fait penser à l'ennui, c'est que vraiment ce kid qui est un peu dépourvu d'une figure paternelle, qui est un peu paumé, etc. La toute première scène du film, il est en train de pioncer, il suit pas les cours, on est en train de lui faire un cours sur Hamlet en mode boring 3000, quoi. Et du coup, il s'endort. Et là, il est en train d'imaginer une espèce de bande-annonce avec Schwarzenegger. Et finalement, il y a carrément des automatiques et tout. Enfin, c'est gros délire, des grosses explosions et tout. Et tout de suite, moi, ça m'a un peu touché parce que quand j'étais petit, j'étais plutôt du genre à dormir en cours et trouver les cours un peu ennuyants.
Un peu boring.
Voilà.
Génial. J'étais en train de me demander justement où était le concept de l'ennui dans toute cette action à la Schwarzenegger et tout.
Voilà, parce que c'est vrai que film, il est loin d'être ennuyeux. Ouais. Et donc, échec commercial, parce que les gars ont vu qu'il allait avoir Jurassic Park qui allait arriver. Et ils ont eu que 5 semaines pour finir le montage, parce qu'ils voulaient impérativement qu'il sorte avant. Ils sentaient vraiment, en fait, que c'était le bon créneau pour le faire. Et d'ailleurs, Schwarzenegger, c'est un de ses... enfin il est, comment dire, et le réalisateur aussi sont hyper déçus en fait qu'il ait pas eu de succès. Le réal dit qu'il est mal monté alors que moi je le trouve franchement incroyable. Et c'est vraiment le film qui a signé la reine mort des films d'action de ce genre là quoi. C'est à dire que même Die Hard, bah tout de suite Bruce Willis il a vachement moins de muscles, ils l'ont retiré à l'époque des affiches parce que les gens le trouvaient trop ridicule quoi. Et donc ouais, si t'as ce film là il y avait plus de gros muscles à Hollywood. Voilà.
Pas plus mal parfois. C'est génial. Ça me fait penser justement à un film que j'ai choisi en lien avec, avec ce thème de l'ennui toujours, qui s'appelle Out of the Blue, Garçon dans la traduction française, qui est un film de Dennis Hopper. Et ça me fait penser justement au film dont tu parles parce que c'est l'histoire d'une fille, pour le coup, qui est « garçonne », entre guillemets, et qui grandit aux États-Unis. Et elle a une mère héroïnomane. Elle a un père qui est en prison dû à un accident qu'il a créé lui-même en entrant dans un bus scolaire. Donc c'est une jeune fille qui s'ennuie énormément et qui erre un peu dans les rues de son village. Et du mieux qu'elle peut, donc elle finit par faire du stop parce qu'elle ne sait pas quoi faire de ses journées. Elle va faire des, concerts de punk auxquels elle contribue aussi. Et elle est toute jeune, donc c'est un film qui est quand même assez, assez déprimant et assez noir. Il faut le dire et il faut le savoir quand même. Donc là, on a une forme d'ennui quand même dans l'idée qui est assez nocive. Mais il y a une espèce de no future un peu dans le film qui est plus sombre quand même que le Charles Vanegger, quoi, on va dire. mais ça m'avait fait penser à ce film-là, où Dennis Hopper joue dedans aussi, d'ailleurs. Dennis Hopper qui a fait Easy Rider, qui est un peu plus connu, pour le coup. Et il n'est pas trop trouvable, ce film, mais je pense que dans les petites médiathèques, il doit pouvoir être vu. Et je vous le conseille beaucoup. Mais pour continuer ça, j'aimerais aussi faire écouter une musique de Clara Caldine, pardon, qui est une musicienne artiste proche de nous, d'ailleurs également, qui a vécu à Nantes, qui est maintenant basée à Bruxelles, et qui a fait un super morceau qui est sorti sur le label Legoman, qui est basé à Nantes, d'ailleurs également, et qu'on va pouvoir écouter tout de suite, qui s'appelle Sous le soleil de Dijon, et puis je vous en parlerai juste après.
Il y a une ville qui s'appelle Tonnerre, entre Paris et Lyon. Thank you.
Et merci à Clara Caldine, qui est une très bonne amie aussi, et qui va justement jouer la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, donc le 18 octobre, plus précisément, parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que cette émission sera diffusée.
Ça va ?
Ah, ça va. Donc, le 18 octobre, Clara Caldine joue pour la première partie de Vérité synthétique au Kafka, à Nantes. J'espère que vous serez là parce que ça va être super chouette, je pense. Cet EP, il est sorti en 2023. Il s'appelle Paris-Toulon. Et elle fait de la musique qui s'appelle un peu... Enfin, on pourrait nommer comme de l'ambiance ferroviaire, parce que Clara, elle a la particularité d'écrire dans les trains. Elle voyage beaucoup en train. Et elle a écrit pas mal de ses morceaux qu'elle a mixés elle-même, justement, dans les métros ou dans les trains, surtout. Donc j'ai pensé à elle directement, que j'avais contactée justement la semaine dernière pour savoir si elle pensait que ça avait un lien avec l'ennui, tout ça. Et elle m'a dit que oui, justement, complètement, qu'elle écrit ses chansons dans le milieu ferroviaire du train qu'on a tous et toutes connu un peu, je pense, où on a des heures où on reste dans le train comme ça et qu'on s'ennuie et qu'on sait pas trop quoi faire. Et donc où t'es voué un peu à tes pensées. Et ça, elle m'a dit que justement, quand elle écrit les paroles « que se dire de plus », tu te dis, c'est que tu te retrouves vraiment face à tes pensées, à toi-même un peu, quoi. Et que t'essayes de renouer des liens avec l'ennui de la façon la plus positive possible. Donc j'avais pensé à elle là-dessus. Elle a écrit ça avec sa petite balalaïka, qui est une guitare russe qu'elle utilise beaucoup pour ses projets et qui lui va très très bien. Donc il y a un morceau et un EP qui est complètement contemplatif et qui voit l'ennui sous sa meilleure forme, je trouve, en tout cas. Donc j'avais bien envie de parler d'elle là-dessus. Et puis je peux demander à Inès, par exemple, si tu veux parler de tes petits choix.
Oui, du coup j'ai choisi un film, L'Esquimau d'art froid. C'est un film hongrois qui est sorti en 1983, réalisé par Janos Jantus. Et je l'ai choisi parce que c'est un film avec des jeux d'acteurs un peu amateurs, fait avec peu de budget, mais qui représente en 83 le climat de la Hongrie, parce que c'est un film hongrois, et de la scène musicale aussi à Budapest. Donc dans le film, dans les protagonistes, il y a le groupe Balaton, et rejoint par des personnes du groupe de Europa Kiado, donc Europe à vendre en français. Et ensemble avec l'actrice Marietta Mees, et ils ont créé le groupe Traban, dont les films ont d'abord été présentes dans ce film-là, les traces. Et l'an dernier a été ressorti du coup en des enregistrements de Traban liés au film.
Ok, ouais. Et en voilà. 2024, c'est ça ?
Ou... En 2024, ouais. L'an dernier.
Donc c'est écoutable sur Bandcamp aussi ?
Oui.
Ok, bon, on peut écouter ça.
Nem tudom,
estes mosolygást mi elve.
Alors, c'était Maniacus Depressio de Trabant. Les paroles, on peut les traduire, enfin, je vais traduire une partie de la musique, c'est « J'aime ce rêve, je suis allongée sur ce lit, sous l'eau, mon âme erre, mon corps est mort, je suis une image projetée sur moi-même, je ne sais pas où je suis, je pense toujours à toi. » Et voilà un des morceaux de Trabant, groupe qui a existé à travers le film que j'ai présenté, qui s'appelle Eskimo Asoniphasique, l'Eskimo d'Afroi, qui est sorti en 83. Donc l'histoire, c'est à Budapest, une femme rencontre un pianiste qui voyage beaucoup. Et faut le savoir, à cette époque, Budapest est encore dans le bloc Est et jusqu'à la chute du mur de Berlin va rester cloisonnée. Donc à part ce pianiste, par exemple, qui a une carrière internationale, absolument personne peut voyager par exemple à la ville de Vienne qui est à 2 heures en voiture, mais les frontières sont fermées. Donc quand Laura m'a parlé d'ennui pour le sujet de l'émission, j'ai pensé à ce film parce que dans l'ennui, pour moi, il y a une question un peu d'enfermement, dans le sens où comme un enfant qui est sur un trajet de voiture, qui n'a pas de notion du temps et qui ne sait pas quand son enfermement va finir, il y a un peu cette impossibilité à s'échapper et à ne pas savoir quand ça va finir. Et j'aime beaucoup ce film parce qu'il est un peu dans le jeu d'acteur amateur, mais les musiques sont incroyables pour moi. Et c'est à la fois un film romantique, mais avec une romance un peu douce-amère, car les personnages semblent essayer de rompre un ennui, mais c'est pas l'échappée de leur vie, c'est pas l'histoire d'amour va pas sauver leur quotidien. Et voilà.
Et le groupe, il a existé quand même en dehors du film.
Oui, après oui, mais d'abord c'est le groupe Balaton.
Ah oui.
Et certains musiciens, du coup le musicien, le pianiste qui joue dans le film, qui joue un des protagonistes, c'est Mihaly Vig et qui a joué dans Balaton. Et avec Marietta Maes, quand elle chante ces chansons-là, ça devient le groupe Trabant. Mais les mêmes musiques existent avec juste Balaton.
Ah oui, okay.
On peut retrouver les mêmes musiques avec une voix masculine. Voilà.
Ah oui. Et ça, tu voulais nous la faire peut-être écouter aussi sous son autre groupe,
c'est ça ? Non, j'ai un autre son de Trabant, mais du coup réenregistré dans la version 2024.
Ok.
Et c'est le morceau qui suit.
Ok, super.
Még itt az álom, úgy találom, fáradt túl.
Et c'était Trabend avec Inès. Merci Inès pour la petite référence qui est super. Et on a Aïssel avec nous aussi. Aïssel, bonjour.
Bonjour Laura.
Qui nous a trouvé des petits morceaux et des petits trucs en plus en lien avec l'ennui qui sont... On retourne dans la France là, on retourne...
Dans le pays nantais.
Ouais, presque. C'est ça. Ouais, presque, ouais.
Moi, je voulais pas vous parler d'un groupe qui s'appelle Tentative. Alors, je ne connais pas le label car je n'ai pas fait mes devoirs correctement. Ouais. Mais je vous laisserai chercher par vous-même.
Oui.
Tentative, c'est un groupe que j'ai découvert par le biais de Sainte, qui est une artiste nantaise, Anne-Sophie. Et je les ai découverts à Paris, au Tony SSD. Et c'était une performance incroyable. Je vous laisse d'abord écouter la chanson « Je m'ennuie ».
Avec Tentative, on peut pas être plus dans le thème, je pense là.
Ouais, et justement, moi, ce qui me plaît dans ce son, c'est que il est très punchy, ouais. Et il me fait pas du tout sentir d'ennui. Je ressens pas d'ennui quand je l'écoute. J'ai plus envie de sauter partout et de danser. Là où je trouve que la notion de l'ennui, elle est quand même assez proche d'un truc déprimant, comme tu le disais dans La Garçonne, ou Inès avec ton film qui ressemble à Maniaco-Dépression, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était ça, non ? C'était ça, mais il y a un délire un peu quand même assez déprimant lié à l'ennui. Et pour cause, j'avais fait des recherches sur une gravure de Dürer qui date de 1514, Mélancolia.
Ok.
Et en fait, en faisant mes recherches dessus, j'ai appris un truc, ce qui s'appelle l'acédie, et qui est un symptôme de la mélancolie et qui est très lié à l'ennui. Je vais vous lire la description. Alors, en gros, dans la théologie catholique, attention, j'ai pris mes petites notes avec moi.
Ah oui,
c'est une affection spirituelle qui atteint principalement les moines et qui se manifeste par l'ennui, le dégoût de la prière et le découragement. Donc, c'est vraiment lié à un truc un peu déprimant.
Ah oui.
Et on le voit d'ailleurs dans la gravure de Dürer, en fait, elle est dans une position très pensive, cette figure ailée centrale, inactive. Et il y a toute une iconographie liée au temps. Le sablier qui mesure le temps, qui est dans une stagnation, la cloche qui est censée marquer le temps, je crois qu'elle est cassée, mais je ne me rappelle plus trop, il faudra regarder, je vous laisserai regarder par vous-même. Donc vraiment, le temps, pour moi, c'est vraiment lié à l'ennui, dans cette espèce de truc immense qu'on n'arrive pas à quantifier, où on est bloqué dedans, un peu comme le tableau de Dali, La persistance de la mémoire, en 1931, avec ses montres molles qui s'écoulent.
De cadran qui coule là. Ouais.
Inspiré du camembert, parce qu'on adore le camembert.
Oui.
Et avec ça, donc il y a vraiment, pour moi, le temps et l'ennui, c'est lié, et on le retrouve beaucoup dans Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch en 2013. Je reprends mes petites notes. Parce que ouais, le temps donc, est totalement infini pour eux, et en fait, ils se font chier, quoi. Ils s'ennuient.
Vampires.
Ils sont vampirisés par le temps, quoi, presque. Il y a vraiment ce truc-là où il n'y a plus du tout de quête de plaisir parce qu'ils ont tout fait, tout vu. Et ouais, en fait, c'est une espèce de redondance.
Ah, parce qu'en fait, ils sont complètement immortels.
Mais oui, ils sont complètement immortels. Donc en fait, est-ce que... ouais, c'est marrant, en fait, de voir est-ce que le... ouais, il n'y a pas de plaisir dans l'ennui, quoi. Ouais. Apparemment, en tout cas, dans ce qu'eux, ils vivent. Et le plaisir, ils le vivent par l'amour qu'ils se portent l'un et l'autre. Comme si, en fait, c'était un truc qui se nourrissait d'eux-mêmes et pas de l'extérieur, quoi. Il n'y avait plus du tout... il n'y a plus de notion de plaisir extérieur qu'autre parce que ce que tu peux construire avec la personne, en tout cas. Et
donc, je me souviens qu'il y a une scène au tout début où ils sont complètement bourrés, même, en fait, ils sont en train de boire... ou alors, il n'y a pas un truc comme quoi, justement, le fait qu'ils boivent du sang, c'est comme de l'alcool un peu pour eux, et qu'ils sont dans une ivresse un peu de ça.
Ça leur permet de survivre. Et donc, du coup, ça reste quand même des vampires qui ont décidé de ne pas vivre au Moyen-Âge et de manger des gens à tout va. Donc, ils ont leur dealer de sang.
Oui, c'est ça.
Et par contre, s'ils ont de se nourrir, bien évidemment, ils vont se laisser mourir. Donc, tout repose un peu aussi ça dans le film.
Ouais.
Voilà, ils sont quand même nourris par rapport à la culture et l'amour qu'ils ont, mais c'est vrai que c'est la grosse dépresse.
Bah, c'est ça, quoi.
D'être un vampire.
Bah, ouais.
Il y a de la grosse errance aussi, un peu. Oui.
Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ben, je trouve que c'est très lié à l'ennui, là, l'espèce d'errance où, en fait, tu sais plus à quoi tu... Enfin, ce que tu as envie de faire, sur quoi tu peux te fier. Enfin, il y a un truc vraiment, un ennui intellectuel, quoi, presque, en fait. Il y a un vide intellectuel, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, si, clairement, oui. J'avais trouvé un bouquin, justement, pour continuer un peu là-dessus, d'un écrivain italien qui s'appelle Moravia. J'ai le roman juste en face de moi, là. Édition Flammarion, même. Qui a été... le bouquin s'appelle tout simplement L'ennui. Donc, on est complètement dedans. Il a été adapté deux fois au cinéma, mais j'avoue ne pas les avoir vus parce qu'ils sont pas forcément... sont pas forcément très bien notés ni très bien connus même, mais c'est un bouquin qui est sorti en 1960 et ça parle d'un peintre déchu, bourgeois, qui pour le coup a énormément de temps devant lui mais qui se sent très seul, et le seul moyen de combattre cet ennui qu'il perçoit lui-même comme un truc très philosophique d'ailleurs, c'est de peindre. Mais il se retrouve dans l'incapacité à trouver des idées, à trouver de nouvelles façons de peindre et de nouvelles façons d'avoir des idées de peindre, d'ailleurs. Et il rentre dans une espèce de grosse mélancolie, en fait, ce protagoniste. Et il décide, en fait, de quitter cette bourgeoisie et de renoncer à l'argent, parce qu'il a l'impression que l'argent, ça lui permet... Ça le noie encore plus dans l'ennui. Et c'est une espèce de faux beatnik qu'il devient, et qui est assez désagréable d'ailleurs dans le bouquin. Si vous le lisez, il est assez détestable, le personnage. Et en fait, pour essayer de combattre cet ennui, il va se trouver des femmes pour essayer de juste combler son temps, et en fait c'est hyper malsain, finalement, l'histoire. Mais c'est quand même un bouquin qui est assez bien écrit, et je crois qu'il a même eu un prix italien, je me souviens plus du nom. Et il m'avait beaucoup plu, il m'avait beaucoup accompagné lors d'un été où je m'ennuyais aussi, justement. Et c'est un roman assez existentialiste, quand même, dans l'idée de posséder des choses, d'être maître soi-même de ce temps, en fait, et de savoir ce qu'on en fait. et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà.
Il y a un délire un peu de consommation, du coup, quand on parle, en gros, il recherche des plaisirs extérieurs en mode consommateur,
ouais,
en fait,
c'est ça. Pour fuir complètement le temps qui est là, quoi.
Ouais. Pour essayer d'avoir une petite décharge excitante ou un truc qui le fait vivre, quoi,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est exactement ça.
Ok. Mais c'est intéressant, en fait, parce que du coup, je sais pas si tu avais fini ou non.
Ah oui, j'étais bien.
Ça me fait penser, du coup, à Gainsbourg, donc la chanson « Ce mortel ennui ». Parce que du coup, j'avais fait des petites recherches pour l'occasion et il s'était inspiré d'un livre, en fait, qui s'appelle « Alphonse » de Benjamin Constant. Et en fait, Alphonse, il séduit Éléonore et il s'aperçoit une fois que la jeune femme fuit mari et enfant pour devenir sa maîtresse, qu'il ne l'a sans doute jamais aimée. Parce qu'il est vraiment dans cette espèce de challenge et de délire de consommation pour essayer... Enfin ouais, c'est pas du tout dans une espèce de rencontre et de construction de quelque chose, mais plus dans un truc de challenge, plus lié à lui-même, quoi. Est-ce que je peux parvenir à l'avoir, quoi.
Ouais.
Et du coup, en fait, il s'en lasse parce que... Une fois que tu l'as consommé et puis t'en veux plus, quoi. Et forcément, tu retournes dans l'ennui parce que t'as rien construit et ça va être éphémère, quoi. C'est un plaisir d'un court instant. Et je trouve que dans la chanson de Gainsbourg, on ressent vraiment ce truc un peu désagréable d'un mec qui est... Enfin, il est vraiment pas sympa dans sa chanson, en fait. Il est complètement dans la consommation. Il considère pas du tout la nana dont il parle parce que, en fait... pour moi, il l'objectifie un peu, quoi. Elle lui sert à quelque chose, et puis là, du coup, il en a plus rien à foutre, donc il la jette, quoi. Ouais. Donc, on est vraiment dans ce truc de consommation aussi.
On peut écouter peut-être ce morceau de ce personnage, peut-être désagréable, mais bon morceau.
Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. J'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir. Ce jour-là, oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mortel ennui se tailler à l'anglaise loin de moi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale, mais on ne trouve plus rien à se dire à la verticale. Alors pour tuer le temps entre l'amour et l'amour, je prends le journal et mon stylo et je remplis et les A et les O. Que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain tendre la main vers le gardénal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père, je me laisse faire.
Serge Gainsbourg, qu'on connaît à peu près tous et toutes, je pense, qui parle bien de l'ennui, mais d'une façon peut-être un peu malsaine aussi.
En effet.
pour le coup. Bon, bah, en tout cas, le temps passe et je pense qu'on peut peut-être arriver presque à une conclusion sur, sur ce thème pour cette première, qui est donc l'ennui et qui, je pense, par nos petites pierres qu'on a rajoutées à chacun chacune à l'édifice, là, on est sur un thème presque philosophique, en fait, dans l'idée. Où l'ennui il peut être à la fois positif dans cette espèce d'admiration et de contemplation plutôt du temps qui passe et de comment nous on est acteurs ou actrices dans ce temps-là. Je pense à Clara, je pense à des personnes qui le voient d'une façon peut-être plus positive et qui aiment prendre ce temps-là. Et je pense qu'elle peut être aussi vue à contrario. Peut-être d'une façon plus néfaste. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Mais je pense que cet ennui-là, il peut être aussi vraiment mal utilisé. Et le fait de se retrouver face à soi-même, je pense qu'il y a un truc là-dedans où on peut être vraiment dans la fuite, peut-être plus parfois, de soi-même. Ouais. Mais en tout cas, on est pas mal peut-être pour ce premier projet. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous.
Moi, je ne me suis pas ennuyée, en tout cas.
Moi non plus.
C'est bien. Super. Non. On peut écouter pour terminer une chanson d'un de mes groupes préférés qui s'appelle Television Personalities. C'est un morceau qui s'appelle Diary of a Young Man qui est sorti sur l'album And Don't the Kids Just Love It. Et c'est un morceau qui parle d'un garçon qui s'ennuie et qui est assez dépressif et qui ne fait que d'attendre, qui attend une femme et qui attend juste que la vie se passe autour de lui. Donc on peut l'écouter pour clôturer cette émission. Et c'était Triptyque sur Jet FM 91.2.